VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Crise au Mali, l'Allemagne va renforcer son engagement militaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où jusqu'à 1 000 de soldats allemands pourraient être déployés dans le cadre de la MINUSMA, la mission de l'ONU sur place, soit près du double du nombre actuel. C'est ce qui ressort d'une décision du Conseil des ministres à Berlin ce mercredi. Le projet de renforcement des effectifs allemands au Mali doit être soumis à l'approbation du Bundestag, la chambre basse du Parlement. Mais le feu vert des députés ne fait pas de doute. La MINUSMA vise à favoriser la mise en œuvre d'un accord de paix entre le gouvernement malien et les rebelles du nord du pays. Considérée comme la mission de l'ONU la plus dangereuse au monde, elle est régulièrement la cible d'attaques des djihadistes d'Al-Qaïda et du groupe État islamique. L'an dernier, plus de 30 soldats de la MINUSMA ont été tués. Jusqu'à présent, le nombre maximum de soldats allemands pouvant être déployés dans la MINUSMA était de 650. Mais pour le moment, seuls 530 militaires allemands sont stationnés à Gao, l'ancien fief des rebelles dans le nord du Mali. En cas d'approbation de ce projet de renforcement, ce déploiement sera le plus important de l'armée allemande à l'étranger. Au Togo, le chef de file de l'opposition togolaise, Jean-Pierre Fabre, a demandé lundi soir la libération immédiate des personnes toujours écrouées dans l'affaire des incendies de deux grands marchés du pays, après 4 années de détention préventive. 6 personnes, pour la plupart des militants de son parti, l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, sont détenues dans plusieurs prisons du pays. Jean-Pierre Fabre est également inculpé dans cette affaire et placé sous contrôle judiciaire. Toujours au Togo, le pays se prépare à l'organisation en 2018 des élections législatives, des échéances électorales qui ne devraient pas se tenir sans les réformes tant attendues depuis 2006, ont souligné plusieurs partis de l'opposition. Tant du côté du pouvoir qu'au niveau de l'opposition, des actions sont d'ores et déjà annoncées pour que ces réformes se fassent. Plus de détails avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
6 partis politiques de l'opposition se retrouvent dans une coalition pour mener des actions en vue d'arracher les fameuses réformes. Maître Dodier Apevon, président des Forces démocratiques pour la République FDR, membre du groupe des 6.
Compte tenu de l'urgence de ces réformes-là, il faut aller à l'Assemblée pour les régler. Et les autres sujets qui sont des sujets plus délicats, confier ça à une commission consensuelle qui aura du temps pour y réfléchir.
Le 3 janvier dernier, le président Fogne Singbe a pris un décret nommant les membres de la Commission nationale de réflexion sur la réforme. Pour le chef de file de l'opposition, la mise en place de cette commission de réflexion sur la réforme s'apparente à un coup de force. Jean-Pierre Fabre.
Le chef de l'État n'a pas le droit de mettre en place cette commission, sauf à vouloir décréter la mort de l'accord politique global. Cet acte de vouloir mettre fin unilatéralement à l'APG, pour nous, s'apparente au coup de force ou au coup d'État du 5 février 2005.
Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Corruption au Nigeria, des procureurs italiens enquêtent sur un scandale impliquant l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan et sa ministre du pétrole, soupçonnés d'avoir reçu des pots de vin pour conclure un contrat de 1,3 milliard de dollars avec 2 géants pétroliers, l'italien Eni et Shell. Selon des documents judiciaires consultés par l'AFP, le parquet de Milan mène actuellement une enquête préliminaire visant 11 personnes, y compris les dirigeants de ces deux grandes compagnies pétrolières et les entreprises elles-mêmes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En République démocratique du Congo, 26 personnes ont été tuées en 8 jours dans des affrontements entre les forces de sécurité et les partisans d'un chef traditionnel dans le Kasaï central. La province abrite le quartier général du mouvement du chef Kamuina Nsapu. Ce potentat local a été tué dans une opération de police le 12 août 2016. Il avait lancé des appels à l'insurrection et à la libération du Congo. Dans un enregistrement audio qui circule toujours sur les réseaux sociaux. Au Congo-Brazzaville voisin, l'ancien candidat à l'élection présidentielle André Okombi Salissa, en clandestinité depuis des mois, a été arrêté hier à Brazzaville par les forces de sécurité congolaises. L'opposant est actuellement détenu à la Direction générale de la surveillance du territoire, la DGST. Sa famille politique et certains acteurs de la société civile s'inquiètent pour son intégrité physique. Des détails avec Ngouila Ngoussou, notre correspondant à Brazzaville.
Cette arrestation a été confirmée à VOA Afrique par le colonel Jules Mokalanchoumou, porte-parole de la police. L'ancien ministre Okombi Salissa, passé depuis quelques 2 ans à l'opposition et qu'on croyait en fuite à l'étranger, a finalement été arrêté dans un quartier de Brazzaville. IDC, sa famille politique, a aussi été dénoncé une arrestation arbitraire et tyrannique. Charles Zakari Bouaou est le président de l'IDC.
Finalement, nous avons eu la confirmation qu'il se trouve en ce moment à la DGS. Et nous sommes en train de prendre les dispositions pour l'accompagner, l'assister, faire en sorte qu'il ait à sa disposition un avocat. Pour nous, ce fait vient confirmer que le Congo n'est pas un état de droit et que le pouvoir qui est là est un pouvoir illégitime. Il ne peut entreprendre que de façon illégitime. Nous avons des prisonniers politiques. Okombi ne sera qu'un de plus.
Dans l'opinion nationale, beaucoup d'interrogations sur les conditions de cette arrestation, vu que l'opposant ne s'était plus montré en public depuis l'élection présidentielle de mars 2016, dont il a été candidat. Luamba Moké, le président d'une ONG locale qui travaille sur l'univers carcéral, se dit très inquiet.
Parce que là, nous ne considérons pas la direction générale de la surveillance territoire comme étant un lieu carcéral. Pour nous, le lieu carcéral, c'est la prison centrale, la maison d'arrêt. Le Congo est devenu un pays champion effectivement de la torture et que nous craignons que ce monsieur, un ancien ministre, puisse subir la torture, parce que vous savez bien que ceux qui ont travaillé avec Okombi, certains ne sont plus en vie plus tôt, d'autres ont été torturés comme Kalakala, comme Okuya, ils sont nombreux parce que nous avons toute une liste des gardes-corps qui ont subi effectivement des véritables tortures.
Récemment, le procureur de la République, André Okongakala, avait demandé la levée de l'immunité parlementaire de André Okombi Salissa pour ouvrir des poursuites judiciaires contre lui. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis. Dans son discours d'adieu après 8 ans passés à la Maison-Blanche, le président Barack Obama a exhorté ses concitoyens hier soir à Chicago à défendre les valeurs américaines et à rejeter les discriminations. Dans une allocution empreinte d'émotion, au cours de laquelle il a remercié sa famille et déclaré le temps passé à la Maison-Blanche comme l'honneur de sa vie, Barack Obama a demandé à son auditoire d'embrasser sa vision du progrès et de rejeter certaines des mesures politiques que souhaite prendre son successeur à la Maison-Blanche, le républicain Donald Trump. Pour une réaction, Jean-Roger Bion a contacté le professeur Leonard Wanchekon de Princeton University, ici aux États-Unis.
Il a placé son bilan sous le signe du progrès économique, sur le plan de la cohésion nationale, surtout la cohésion interraciale. Ce que j'ai également aimé, c'est sa reconnaissance que les inégalités n'ont pas diminué, bien au contraire. Donc, il reste que le pays est très polarisé sur le plan social, quoi, à cause des inégalités.
Alors, avez-vous senti des moments d'amertume ou des regrets?
Bien sûr. Tout ce qui se dit actuellement par rapport à changer de cours, par rapport à sa politique, notamment sur la question de santé, et le manque de reconnaissance par l'administration qui sera au pouvoir dans quelques jours, par rapport à tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a représenté donc pour le pays, quoi. Mais en fait, ce qui est vrai, c'est que c'est la politique. Mais c'est quand même, ça va un peu trop loin, quoi. Le rejet total de ce qui a été accompli et qui reste très, très évident. Il insiste surtout sur les aspects économiques, quoi. Sachant que le pays était dans la crise lorsqu'il est venu, et maintenant, il y a eu des progrès, il y a la croissance, il y a la réduction de la pauvreté, la réduction donc du chômage de façon continue depuis donc ces dernières années. Donc,
alors, ce discours, ça, pour terminer, professeur, est-ce qu'il vous a paru anti-Trump, selon vous?
Bien sûr. Enfin, le ton, le ton l'est, et le contenu également l'est. Donc, vous voyez le contraste entre les deux, non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan de la personnalité, quoi. Je suis persuadé que beaucoup d'Américains, beaucoup de jeunes Américains en particulier, doivent se demander aujourd'hui où est-ce qu'on en est, quoi. Comment on en est arrivé là? Mais c'est fait. Je crois qu'on attend pour voir la suite. Mais pour quelqu'un qui a suivi la politique américaine depuis les 8 dernières années, vous savez que vous êtes certain d'une chose, quoi. C'est que cet héritage va rester, cet héritage va être difficile à effacer, quoi. Donc, tout cela est rassurant.
Le professeur Leonard Wanchekon de Princeton University, ici aux États-Unis. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.